Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, bienvenue pour cet épisode 20 de la saison 3, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Alors que j'essaie de couper un peu mon son parce que sinon ça va fondre dans le casque et puis j'entends mon écho, donc c'est toujours difficile de faire l'émission comme ça dans ces circonstances-ci, puisque vous l'avez peut-être remarqué sur notre chaîne YouTube Cinécast, on essaie de faire l'émission également en vidéo pour vous apporter un contenu varié, plaisant et toujours sympathique.
C'est-à-dire notre tranche de cake, globalement.
Notre tranche de cake, mais en petit, hein, on se met pas en grand, comme ça vous avez quand même les images des films, qui c'est quand même le plus important, on est là pour parler de cinéma.
Les petites bandes annonces de temps
en temps. On n'est pas là pour parler de notre look, même s'il est assez swag comme chaque semaine, n'est-ce pas? Donc, cette semaine, on a un programme assez sympathique puisqu'on va parler de trois films, comme chaque semaine. Un film américain de Greta Gerwig, le nouveau film de Greta Gerwig, que vous connaissez peut-être pour son film Lady Bird, hein, mais qui nous revient avec l'adaptation d'un bouquin assez classique aux États-Unis. C'est un classique de la littérature.
Classique de chez classique, ça c'est sûr.
C'est Les filles du docteur March, Little Woman en anglais. Je sais pas si... Non, chez nous aussi c'est Les filles de Dr. March. On n'a pas gardé le nom en anglais en Belgique.
Bon, ça dépend, à Bruxelles c'est bien, on garde souvent le titre original, mais ça dépend. Mais c'est les filles du Dr. March ou Little Women, ça dépend où vous êtes.
Tout à fait. Deuxième film de la semaine, c'est Richard Jewell. Je crois, là aussi, il y a un nom à rallonge. Hein,
Oui, c'est le cas Richard Jewell en français.
Le cas Richard Jewell, tout à fait. Et c'est un film qui est réalisé par Clint Eastwood. Rappelle-moi un peu l'âge qu'a Clint Eastwood, juste pour 83
Écoute,
ans, je pense.
Je vais te le googler en direct parce que je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'il est vieux.
Je pense qu'il a 83 ans, Clint Eastwood.
89
ans, c'est dingue ça. Ouais. Donc Clint Eastwood qui continue de faire du cinéma, il a fait des films pas terribles assez récemment encore. C'était pas...
Le dernier c'était pas mal, La Mule, on en avait parlé.
Oui, La Mule, c'est ça.
Dans la saison, enfin l'année dernière. Par contre, c'était celui d'avant encore là, le train de 14 heures, je sais plus combien là. Ouais.
Le Thalys quoi.
Ça c'était. C'était Carabiné quand même.
Oui, c'est Carabiné, il n'a pas toujours fait des films incroyables, mais là il revient peut-être en force, on en parlera, avec de nouveau une histoire vraie, adaptée au cinéma, puisque c'est sa spécialité maintenant.
Bah, c'est Clint Eastwood, c'est l'histoire de l'Amérique, quoi. Exact. Et des héros américains surtout. Ou des anti-héros, ça dépend.
Et le dernier film de la semaine, c'est un film belge qui s'appelle « Fille de joie ». Par Frédéric Fontaine. Frédéric Fontaine, rappelle-nous un petit peu, il avait réalisé notamment, je crois que c'était La Liaison Pornographique, c'est ça le titre ?
Les Liaisons Pornographiques,
Les Liaisons Pornographiques, tout à fait. Avec tout Nathalie Baye.
Oui, La Femme de Gilles aussi, avec Emmanuel DeVos et Clovis Cornillac. Enfin, voilà, il a fait plusieurs choses. Très cinéma auteur belge, hein, on va pas
se le cacher.
Bah ouais,
c'est très Cinévox tout ça.
C'est complètement Cinévox. Mais ici, même si le film garde un caractère social, on est dans quelque chose d'un peu plus, je peux pas dire joyeux, parce que le titre n'est pas, le titre est un peu fausseur. Hein,
oui.
Mais on n'est pas du tout dans un truc triste, déprimant non plus. On en parlera plus en détail.
Tout à fait, on en parlera en détail. Fille de joie, il est question de femmes qui traversent la frontière belge pour aller en France et pour avoir une seconde activité, on va appeler ça comme ça, puisqu'elles se prostituent de l'autre côté de la frontière. Donc c'est un film social, mais pas que. On en parlera en fin d'émission. Entre-temps, on profitera des espaces pour parler notamment des Oscars, hein, revenir sur le palmarès, les surprises qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu deux ou trois, plus particulièrement deux.
Oui, il y a eu quelques petites surprises. Mais
quelques surprises.
Mais globalement, pas des masses. Hein.
Dans l'ensemble, c'était tout à fait attendu. Et on reviendra un petit peu sur le décès de Kirk Douglas, le père de Michael, qui est décédé à l'âge de 103 ans, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Donc quand même une légende du cinéma qui s'éteint avec une belle vie. Hein,
quand et même. Son épouse en a quand même 101. Hein,
tout à fait.
Donc tous les deux, c'est ils vont loin.
Enfin, ils vont loin. On commence tout de suite par
la revue de presse.
Par la revue de presse, tout à fait. Alors que je prépare la track audio, on peut la lancer tout de suite. La revue de presse, comme chaque semaine, on parcourt les actualités cinéma, ce qui a fonctionné au box-office dans un premier temps. C'est toujours le petit passage par nos amis des chiffres. Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres français, comme chaque semaine, puisque c'est Bird of Prey qui vient de sortir et qui prend la première place du box-office en France. Pas très étonnant, hein, puisque quand on voit les différentes offres actuelles au cinéma, C'est pas étonnant qu'un film comme ça américain avec Margot Robbie dans l'univers DC prenne la première place. 400 000 entrées du coup pour Birds of Prey.
Ils l'ont renommé, j'ai vu aux États-Unis, j'ai vu ça aujourd'hui. Ils l'ont plus. Donc ça s'appelle plus Birds of Prey, parce que d'ailleurs ils ont oublié le S là dans ton tableau. Et je pense qu'ils l'ont renommé Harley Quinn, et puis ils ont gardé le sous-titre de Fantabulous Emancipation, machin ouais, chose. Ouais. Mais vu que le film en fait c'est quand même plus Harley Quinn que les Birds of Prey, et voilà, j'ai lu qu'ils l'avaient renommé pour la sortie salle américaine.
Deuxième film de la semaine, c'est Duke Obu 3, réalisé par Elie Simoun dans notre beau plat pays.
Peut-être alors.
Qui a fait 330 000 entrées en France, donc un bon démarrage. Et troisième film, c'est Le Voyage du Docteur Doolittle, qui est un bide international, mais qui fonctionne un peu en France, puisqu'il a fait 320 000 entrées. Après Bad Boys, après 1917 forcément, et petite déception quand même pour Guy Ritchie, qui arrive à 210 000 entrées pour The Gentleman. Mais je pense que la grosse déception en France, elle est à regarder un peu plus bas au classement. Neuvième film avec Je suis là, ouais. Avec Alain Chabat. Donc
voilà, là, 105 000 entrées, c'est quand même, c'est quand même un peu une oui. catastrophe pour
toi. Là, il s'est pris pareil. un uppercut, hein, notre ami Alain.
Ouais, Guy Ritchie, c'est pas ouf, 210 000, mais c'est, on n'est pas encore à la catastrophe, franchement.
Non, tout à fait. Donc ça c'est pour le box-office, passons maintenant aux différentes actus de la semaine, et on commence tout de suite par un revenant, on peut l'appeler comme ça, hein. Sam Raimi.
Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'il a disparu quand même.
Ça fait un moment qu'on l'a pas vu au devant de la scène, hein. On sait qu'après Spider-Man 3, il a eu des propositions pour continuer dans l'univers de Spider-Man, mais ça a toujours été refusé par les studios, enfin soit.
Mais il a fait Drag Me to Hell, mais je sais plus si c'était avant ou après Spider-Man 3. Drag Me to Hell, jusqu'en enfer. Plus. Enfin bref, il faudrait vérifier. Mais c'est vrai que globalement, il a disparu du grand écran depuis un moment. Bien qu'on l'ait. Il a officié un petit peu du côté de la télévision, puisqu'il y a eu la série adaptée d'Evil Dead, donc Ash versus Evil Dead. Je pense qu'il a dû réaliser l'un ou l'autre épisode, mais il était surtout un peu le patron de la série. Je ne sais pas s'il avait vraiment le titre de showrunner, mais voilà, en tout cas, il était impliqué dessus, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on ne l'a plus vu au cinéma depuis un moment. Et là. Peut-être.
En plus, si je ne me trompe pas, c'est un peu de nouveau du bricolage, hein, puisqu'on est venu le chercher. Je crois qu'il commence le tournage dans 6-7 semaines. Donc, c'est de nouveau, comme on entend souvent à Hollywood ces temps-ci, dernière minute, on a envie de chercher un yes man qui peut faire le boulot. Bon, Sam Raimi, yes man, est-ce que c'est un yes man? C'est un bon débat.
Non,
à la base, ça ne l'est pas.
La réponse est évidente. Non, ce n'est pas du tout un yes man. Et c'est quand même un des gars qui a propulsé les films de super-héros vers le niveau actuel. En tout cas. Je pense que sa trilogie Spider-Man est une des plus réputées des films des super-héros. Donc il a fait d'excellents films. Et là, le voir revenir sur un film comme Doctor Strange 2, c'est surprenant. D'un côté, vu le travail qu'il a fait sur les Spider-Man, c'est cool aussi de le voir revenir vers le genre des super-héros. Donc pourquoi pas, moi je trouve ça une bonne idée. C'est dommage pour Scott Derrickson qui a fait du bon boulot sur le premier. Après, si Scott Derrickson retourne au film de genre, plus spécifiquement au film d'horreur, ça me dérange pas, bien que son dernier film d'horreur en date était quand même un peu pourrave, mais... J'ai même plus le titre, mais c'était un truc avec Edgar Ramirez et Eric Bana ou un truc, enfin bref.
Ouais. Et alors
c'était pas terrible du tout, qu'on se le dise. Voilà, Sam Raimi... Doctor Strange 2, pourquoi pas? Moi, je suis curieux.
Pourquoi pas? Attendons voir.
Peu importe ce que fait Sam Raimi, les gens seront là.
Oui, ça, je pense qu'il y a...
Trop rare que pour aller le snobber.
Exactement. Chose qui va être snobée, par contre, c'est la 20th Century Studios, hein, parce que c'est plus le nom.
Feu 20th Century Fox.
Exactement. Disney, quand ils ont racheté la Fox, ont promis de ne pas supprimer les activités de la 20th Century Fox, en disant que voilà, le but était qu'ils continuent à faire leurs propres films, avec leur identité, etc. Il n'en est pas vraiment... Ce ne sera pas vraiment le cas, puisque Disney a maintenant confirmé qu'il y aurait environ 4 films par an de la 20th Century Fox, ou en tout cas studio. Donc, entre guillemets, c'est une manière très gentille de tuer la marque. Hein.
C'est un scandale. Franchement, c'est honteux ce qu'ils sont en train de faire, Disney. Mais c'est juste... Enfin, bon, après, ils ont racheté le truc. Ils en font ce qu'ils veulent, mais ils sont en train de détruire complètement un illustre studio qui a marqué quand même l'histoire du cinéma et qui sort beaucoup plus que 4 films par an, quoi. Après, oui. Tout ce que fait Fox n'est pas incroyable,
oui,
comme
clairement.
Tous les studios. Hein. Mais la Fox, c'est quand même un studio qui a produit des classiques de chez classiques, quoi. Donc, les aliens, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont chez eux et c'est... Enfin, c'est même pas juste dommage, c'est dramatique de voir ce que Disney est en train d'en faire, quoi. Donc, ouais, franchement, je suis pas juste triste, mais choqué de voir ce que Disney est vraiment en train de faire dans le monde du cinéma de manière générale, et le monde du enfin, que ce soit le grand ou le petit écran aussi. Donc vraiment, c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a l'air de s'en soucier, même si sur Internet on voit des voix qui s'élèvent contre ce que Disney fait, mais bon, voilà, j'ai l'impression que le monde est un peu impuissant face à ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment grave, quoi. Ils sont en train de tuer déjà la créativité. Franchement, qui peut dire maintenant que Disney est encore un studio très créatif? Il y en a toujours, bien sûr, mais relativement peu, quoi. Les mecs, Disney est devenu une machine à cash pure et simple. Enfin, devenu, non. Ça n'est pas devenu ça depuis longtemps, mais
j'ai
l'impression qu'il n'y a plus que ça, en fait, et qu'il n'y a plus grand-chose derrière.
Bah, je pense qu'en
tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il y a encore cette envie et cette vocation vraiment créatrice et de leader de création
prendre des
qu'il y avait
aussi.
Avant. Bah, bien sûr,
voilà.
C'est quoi les prises de risque de Disney?
Ils en prennent aucun.
Je veux dire, c'est deux films d'animation peut-être par an où waouh, peut-être il y a un petit truc de différent, mais c'est tout, quoi.
Oui, ça encore parce qu'il y a Pixar. Mais tu peux être sûr que si
l'un des deux films en général est Pixar, quoi. Enfin,
tout à fait.
Enfin, c'est pas parent parce que en général ils alternent un Pixar et un Disney. Ouais. Enfin bref. Mais
c'est clair que il y avait de quoi faire avec la Fox. Ils auraient pu utiliser cette marque là pour justement faire des films qui dénotent de leur catalogue habituel,
mm-hmm.
Searchlight notamment, et où on n'en parle pas, on n'en parle plus. Enfin, c'est ok, next, quoi.
Donc, bah, ouais.
On a un peu peur de qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite. Bon.
Mais je pense que pour une franchise, c'est un peu intéressant que Disney ait mis le grappin sur Fox, c'est les X-Men, c'est tout. Parce qu'ils vont pouvoir rejoindre le giron Marvel Studios, et donc ça veut dire peut-être
Avengers, et tout ce qui
etc.
Va avec.
Donc... et encore, vu les films Marvel, même si j'avoue, hein, j'en suis quand même un amateur.
C'est le sujet de notre podcast.
Ça reste un truc quand même relativement aseptisé, qui est plus très original non
avant
plus.
Avant même
donc,
d'aller voir le film, tu sais ce que tu vas voir.
Est-ce qu'on a vraiment envie de voir les X-Men chez Marvel? Je sais pas. D'un côté, oui, bien sûr. Hein, parce que c'est ce qu'on a toujours voulu.
Mmh.
Mais voilà. Honnêtement, Disney n'est plus très excitant. On va pas se mentir.
On verra ça et on en parlera dans Cinécast, bien sûr. En parlant de choses qui peuvent être excitantes, par contre, c'est Mad Max.
Ah bah, bien sûr.
Le tournage du prochain Mad Max est en préparation. Il va démarrer bientôt. Je crois que c'est au printemps prochain. Est-ce qu'on a quelques informations supplémentaires sur ce film-là? Est-ce que c'est la même équipe? Est-ce qu'on sait si Tom Hardy revient?
Dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on a déjà dit dans un épisode la semaine dernière ou il y a deux semaines qu'ils avaient eu le green light pour filmer en Australie à l'automne. Mais je ne sais pas si on a beaucoup plus d'informations à présent.
Mais non, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est officialisé.
Mais oui, je pense qu'avant, ce n'était pas vraiment... l'annonce vraiment d'une suite de Mad Max n'était pas vraiment officielle.
Voilà.
Mais... on avait globalement compris que c'était de ça qu'il s'agissait. C'est vrai que maintenant, c'est officiel. Il va y avoir un nouveau Mad Max. Est-ce que ce sera une suite vraiment directe à Fury Road ou pas? Ça, on n'en sait rien, en fait, encore. On ne sait pas si Tom Hardy et ou Charlize Theron seront de retour. Si c'est que l'un ou l'autre, honnêtement, ça ne me dérange pas, parce que les deux personnages sont très cool. Si c'est les deux, c'est cool aussi. Voilà, mais
c'est une belle analyse.
Mais oui, non, mais c'est important parce que c'est-à-dire que la saga Mad Max avec ce personnage de Imperator Furiosa, donc incarné par Charlize Theron dans Fury Road, ça peut basculer vers autre chose. Alors et dans ce genre de saga où ça me dérangerait pas que le personnage féminin prenne le lead, en fait,
ouais.
Parce que ça reste l'univers Mad Max, même s'il y a plus le Max, c'est pas grave. Mais t'as un personnage qui, je trouve, est devenu iconique. Hein. L'Imperator Furiosa.
C'est oui, clairement.
Les gens en parlaient autant, si pas plus, que le personnage de Max. Donc,
tu tapes Max Fury Road sur Google, t'as beaucoup d'images d'elle, hein, finalement, par rapport au film. C'est ça qui sort en premier,
ouais.
Sa prestation. On termine peut-être la revue de presse qui est longue, hein, comme la nouvelle habitude,
ouais.
Par une autre nouvelle tournage, plus particulièrement de notre ami Pedro Almodovar.
Ben oui, qui va réaliser un film en anglais. Alors honnêtement, je maîtrise pas assez la filmographie d'Almodovar pour savoir s'il avait déjà tourné en anglais, mais je pense que non. Je pense que non.
Tu penses que
Désolé, j'ai pas révisé. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, bien entendu. Mais Almodovar est un réalisateur attaché à son pays, à sa langue, à sa culture. Donc je pense que je m'avance pas trop en disant qu'il a pas encore fait de film en anglais. Mais là, voilà, ça devrait arriver. Oui. Avec Tilda Swinton au casting. Et oui. Ça, je dis oui. C'est un grand film.
C'est déjà un win, hein. Ça, dès le départ, on sait que Tilda Swinton a quand même bonne presse. Et que c'est une actrice de talent incroyable. On sent déjà le film dans certains festivals.
Pour moi, c'est un duo qui va marcher à crever.
Oui, il y a des chances.
Ça ne peut pas en être autrement.
Est-ce qu'on ne parlerait pas du premier film de la semaine? Je pense qu'on a pas mal tardé sur les différentes news.
Allons-y.
Enchaînons tout de suite avec un film qui va faire plaisir à beaucoup de nos auditeurs, y compris à moi un petit peu. Il sera question d'Emma Watson, mais pas dans son intégralité, bien sûr. Il sera surtout question de Greta Gerwig, réalisatrice femme de Noah Baumbach, mais qui clairement a réussi à créer sa carrière, à s'émanciper il y a bien longtemps, en jouant notamment Frances A de son mari. Mais après, elle est devenue réalisatrice avec Lady Bird il y a 2 ans, où elle avait utilisé le talent de Saoirse Ronan. Et maintenant, elle revient. Adaptation de bouquin, c'est un peu étonnant de sa part. Quoique c'est un bouquin qui peut être interprété de manière très féministe.
Mais oui, je pense que c'est une histoire qui reste dans l'air du temps.
Ah oui.
Parce qu'il est clairement question d'émancipation, etc. Donc, alors que dans notre civilisation civilisée, ce sont des questions qui devraient plus trop exister, en tout cas de moins en moins. Et je pense que ça existe de moins en moins, mais toujours, non. Elles sont toujours là, un peu sous-jacentes, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'un film comme Les filles de Dr. Marsh a encore sa... a toujours sa raison d'être et reste et garde un côté moderne d'une certaine façon.
Alors, voilà. Les filles du Dr. Marsh, c'est un roman qui a déjà été adapté des dizaines, peut-être même des centaines de fois, que ce soit au cinéma ou sur le petit écran. Hein.
Oui, avec je pense que la plus connue, c'est avec Winona Ryder, non, si je dis pas de bêtises.
C'est pas Elizabeth Taylor.
Écoute,
bref. Il y a eu beaucoup d'adaptations de ce film-là, on va pas commencer à s'attarder là-dessus. On est là pour parler de la nouvelle avec Greta Gerwig. Je disais Emma Watson au casting, bien sûr, mais pas que. Ta petite préférée, Florence Pugh.
Florence Pugh.
Pugh, qui avait joué dans Midsommar, entre autres. Et Timothée Chalamet, la star montante, le DiCaprio des temps modernes, c'est comme ça qu'on le surnomme à Hollywood. Qu'est-ce que ça donne, Little Woman? Est-ce qu'on est devant une adaptation plan-plan du livre qui ressemble très fort à ce qui a déjà été fait avant? Ou est-ce qu'il y a des spins où elle insiste plus sur le côté féminin? Bon, forcément, est-ce qu'elle essaye de changer un peu la donne? Ou c'est vraiment une adaptation pure? Sans doute que tu n'as pas lu le bouquin, mais... mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans du classique? Ou est-ce qu'elle utilise le bouquin et son concept pour le mettre au goût du jour? Pas vraiment.
Alors j'allais te dire déjà que si tu partais du principe que j'ai lu le bouquin, on était mal barré.
Je me suis surpris, c'est trop ambitieux de ma part.
Malheureusement,
t'as autre chose à faire.
Je ne prends pas, non c'est pas que j'ai toujours des choses à faire, mais je ne prends pas assez le temps de lire, c'est vrai. Et j'ai lu aucun classique de la littérature, c'est dramatique.
Enfin.
Je te jure, enfin, vraiment c'est dramatique.
T'as lu Ready Player One, et ça c'est important.
Au moins 5 fois.
Voilà. T'as dû lire Candide aussi.
C'est honteux. Non, même pas, mais voilà. Après, je pense que malgré tout, tout le monde ou presque connaît l'histoire des filles du Dr. Marsh, au moins dans ses grandes lignes. Hein.
C'est des filles d'un docteur
qui est parti faire la guerre.
Il y en a une qui veut un peu changer, qui n'est pas du tout dans la même orientation que ses sœurs, c'est ça?
Oui, globalement. Globalement. Il y en a une qui a un grand attrait pour la littérature. Mais elles ont chacun leur truc de toute façon. Il y en a une, c'est plutôt l'art, enfin la peinture, etc. Et il y en a une qui est malade, qui est toujours à la maison. Bref, à un moment, tu as l'enfance des filles, et puis tu passes plus tard dans leur vie. Et même si dans le film, c'est présenté avec plutôt sous forme de flashback, etc., d'aller-retour incessant entre le passé et le présent. Et c'est plutôt très bien fait dans le film, donc c'est pas une critique que je fais du tout. Mais voilà, globalement, on parle de deux époques séparées, même s'il y a des liens entre elles, entre le moment où les filles vivaient toutes ensemble à la maison avec la mère, parce que le père était à la guerre, et puis leur retour des années plus tard, parce que, voilà, comme je disais, la cadette Beth est malade, et il se peut que ses jours soient comptés. Donc voilà, il y a des... Cet dramatique événement qui, je dis beaucoup dramatique aujourd'hui,
Donc elles se séparent.
qui fait en sorte que la famille va se retrouver.
Ok, c'est ça. Donc elles se séparent, elles vivent un peu leur projet, leur émancipation, et elles doivent se retrouver pour une raison dramatique
Ouais.
qui va être le début de, je suppose, pas mal de conflits entre eux.
C'est ça. Alors que celle qui est plutôt qui a cet attrait pour la littérature, donc Joe, qui est le personnage principal, hein, vit à New York. La troisième, Amy, est en Europe. Elle est partie avec la vieille tante en Europe. Vieille tante incarnée par Meryl Streep. L'aînée, Meg March, qui est incarnée par Emma Watson, elle a fait sa vie dans le coin. C'est celle qui vit le plus proche
Elle n'a pas bougé.
de maman. Et puis, bah, voilà, il y a la dernière, Beth, qui est malade, gravement malade. Et donc, voilà, chacun a sa petite vie et elles vont se retrouver.
Est-ce que ça donne lieu à des échanges dramatiques assez jouissifs, des bons jeux d'acteurs, des dialogues savoureux? Quelle est vraiment la force de ce film, si ce n'est forcément le sujet?
Bah, tout est fait au cordeau, franchement, il n'y a rien qui dépasse déjà l'histoire en elle-même, même si on la connaît, ça reste très touchant, parce que Greta Gerwig y met énormément d'intensité dans ses scènes, dans la façon dont elle filme ses personnages, la façon dont elle raconte les événements, et puis évidemment, il y a les comédiens elles-mêmes, je veux dire eux-mêmes, parce qu'il y a quelques rôles masculins assez géniaux aussi, j'en parlerai après, mais voilà, globalement, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, et Eliza Scanlan, jeune actrice australienne que j'ai pu découvrir à Venise dans Baby Teeth, un film qui sortira dans un mois ou deux ici en Belgique, et je pense en France aussi. Ces quatre-là sont absolument géniales. Laura Dern dans le rôle de la mère, génial aussi. Meryl Streep, bon, voilà. C'est Meryl
C'est vrai que c'est
Streep,
un
on n'en
casting
parle plus.
que beaucoup de gens enviraient, enfin envie,
Bah,
je
bien
veux dire.
sûr. Et au niveau des trois rôles masculins, trois, quatre rôles que je vais relever, il y a Timothée Chalamet, Tracy Letts, grand dramaturge américain et excellent acteur. Bob Odenkirk, qu'on voit dans beaucoup de second rôle.
Better Call Saul, ouais.
Et Louis Garrel aussi, qui a un petit rôle sympa quand même, le petit rôle du Frenchie,
Big up
enfin bref,
Louis.
ouais. Ou encore Chris Cooper, j'allais oublier Chris Cooper.
Oui, quand
Bref,
même.
gros gros casting.
Il y a assez de temps pour tout le monde ou
Ouais, bien sûr, bien sûr. Le film est pas hyper long, il fait 2 h 15. Enfin, c'est pour les normes actuelles, c'est normal, hein.
Ça va.
Enfin, les standards actuels, c'est
C'est le
normal.
max pour un drame.
Ouais, oui, mais à partir du moment où tout s'enchaîne bien, tu sais, la machine est huilée, 2 h 15, c'est pareil que si c'était 1 h 30, quoi. Donc,
C'est vrai que
c'est
parfois le
vraiment pas
temps
un
passe vite.
film
Oui.
où tu sens le poids du temps. Tu le sens dans le film, parce qu'il a un rôle important, mais tu le sens pas en tant que spectateur quand tu regardes le truc, en fait. Donc, non, la durée est pas du tout gênante, je trouve. C'est vraiment un film magnifique, qui m'a beaucoup touché, qui m'a arraché l'une ou l'autre larme. C'est possible, il y a des gens qui disent ça, qui m'ont vu pleurer.
Oula,
Je ne commenterai pas la
ça n'arrive pas
chose.
tous les jours, ça.
Non, ça n'arrive pas tous les jours, mais voilà, ça arrive. Et quand c'est magnifiquement fait, voilà, tu ne peux qu'être touché. Et en tant que spectateur, on ne demande que ça aussi de temps en temps, d'être touché. Mais cela dit, j'avais dit que je reviendrais un peu dessus sur la question, et je vais le dire maintenant plutôt que lors du débrief des Oscars, mais malgré tout, je suis pas choqué de l'absence de
D'accord,
Greta
j'allais poser la
Gerwig
question justement, hein, si le film est aussi bon.
parmi les nommés à l'Oscar du meilleur réalisateur, en l'occurrence. Elle l'avait été, hein, pour Lady Bird, si je dis pas de bêtises. Ici, pas. Honnêtement, malheureusement, alors que j'adore le film, voilà, ça m'a pas choqué. Et je comprends qu'elle n'ait pas
Quoi,
été
c'est
nommée.
une mise en scène assez classique?
Oui, ça. Il y a plein de bonnes idées, hein, vraiment, mais c'est surtout que je trouve que cette année, le niveau était très relevé. Donc, ouais. Malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde à ce niveau-là. Après, pour moi, il était évident que le film devait être nommé dans la catégorie meilleur film. Il l'a été, fort heureusement. Donc, non, voilà, pas, pour ma part, pas de scandale, je trouve, à ce niveau-là.
Ok, très bien. Donc, tu voulais peut-être un tout petit peu parler des prestations des hommes. Puisque tu as dit oui, il y a quelques prestations masculines assez intéressantes. Bon, tu as cité les acteurs, hein, mais il y en a une que tu veux relever en particulier.
Pas spécialement, alors je suis toujours pas un grand fan de Timothée Chalamet, je suis désolé, c'est fan, s'il y en a.
On va perdre des abonnés YouTube.
Mais non, mais je trouve qu'il a tendance à parler trop bas, à un peu marmonner.
Ouais.
Un peu, d'une certaine façon, un peu comme Keanu Reeves, tu vois.
Un peu la cool attitude comme ça.
Ouais, t'as l'impression qu'il sait pas parler à un volume normal. Ouais, c'est assez perturbant. Je pense que ça fait un peu partie de sa personnalité. Mais voilà. Mais je vais. T'as mentionné Bob Odenkirk, effectivement, dans Better Call Saul, notamment. Mais moi, je vais redire un mot de Tracy Letts, qui a un tout petit rôle dans le film. Hein, mais ce gars est génial. Tous les films dans lesquels il est éclatant. Et en plus, donc, si vous. Tapez son nom dans Google, Tracy Letts. Sa tête vous dira quelque chose, si le nom ne vous dit rien. Mais intéressez-vous aussi à ce qu'il fait en tant qu'écrivain, parce qu'il y a pas mal de ses pièces qui ont été adaptées au cinéma et qui tournent aussi dans les théâtres partout dans le monde. Je sais qu'il y a une de ses pièces qui tournait ici, notamment du côté du théâtre de Liège, ces dernières semaines ou derniers mois, ou en tout cas ça va arriver si c'est pas déjà ici. Donc voilà, un grand comédien et dramaturge américain dont on parle relativement peu parce que c'est un habitué des seconds rôles. Il avait notamment un super second rôle dans The Post, enfin Pentagon Papers de Steven Spielberg. Donc voilà, je voulais faire un petit big up à Tracy Letts, qui n'est pas le rôle le plus important du film, loin de là, mais voilà. Non, qu'on n'entend pas assez.
Ben voilà, donc c'est à ça que ça sert aussi, Cinécast, pouvoir mettre en lumière des acteurs et des actrices que vous ne connaissez pas. Donc...
Et je vais terminer avant de donner ma note, parce que je sais que c'est ce que tu attends.
Oui.
Ma chère et tendre Florence Pugh est évidemment fabuleuse dans ce film. Comme tout le casting féminin, mais Florence Pugh et Saoirse Ronan, franchement, les deux sont fantastiques. Elles sont au-dessus du lot. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore éventuellement...
Courez
voir leur filmographie à toutes les deux. Donc ça s'écrit Saoirse.
Oui, bonne chance.
Ronan et Florence Pugh, pour le dire.
C'est pas spécialement
française.
Les noms les plus faciles à prononcer, ces deux-là.
Ah, pour les non-anglophones, non, c'est pas le plus évident. Mais une fois que tu sais comment le dire, ça va.
Ouais. Ils peuvent changer de nom aussi, hein. Tu vas faire comme Tom Cruise, quoi.
Non. Quoi, tu trouves
que. Elle s'appelle Florence Love ou un truc comme ça.
Ouais. Tu sais, Tom Cruise s'appelle. C'est Thomas son prénom normalement. Cruz, c'est vraiment.
Il s'appelle vraiment Cruz.
Ouais, mais il y a Mapother avant.
Ouais, d'accord, c'est ça. Bref.
Et je pense que c'est Thomas Mapother Cruz 4, quelque chose comme ça. Enfin bref, un truc.
C'est quoi ces noms ?
Écoute, tu me poses des questions sur Tom Cruise, je te réponds.
Quelle note tu donnes à Little Woman, les filles du Dr. Marsh ?
Un très beau 3 étoiles.
3 étoiles, écoutez, bravo.
Il faut un soundboard.
Oui, on n'a pas encore de soundboard.
Il faut un soundboard.
J'ai galère déjà avec le son, c'est pas évident. Vous voyez les mollo. Donc, c'était 3 étoiles pour les filles du Dr. March. On enchaîne avec le sujet suivant. Et le sujet suivant, grosse surprise, c'est les Oscars qui ont eu lieu ce week-end, un peu en avance, avant les Césars cette année. C'est pas plus mal.
Oui, c'est très bien.
Puisqu'on ne doit pas attendre fin février à chaque fois pour avoir les cérémonies des Oscars. Et quand on regarde un peu le palmarès des différents films qui ont gagné, on ne va pas tous les faire, hein, mais en tout cas les prix qui nous ont attirés, je pense notamment, on part par les catégories du bas, il y a meilleur son et meilleur montage qui est attribué.
Je veux dire un tout petit mot sur les courts-métrages avant, parce que je suis, on ne va pas en parler.
Non.
Malheureusement, le très beau film français Mémorable n'a pas gagné l'Oscar du court-métrage d'animation.
Indeed.
Alors... courez voir ce film en festival s'il passe près de chez vous. Il passe bientôt au festival Anima, ici à Bruxelles. Et il n'est pas à nouveau impossible, même si je ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas encore fait la sélection, mais qu'il passe au BIF.
Éventuellement. Voilà.
Et non, vraiment, on n'a pas encore fait la sélection à ce niveau-là, donc je ne sais pas. Et j'espère qu'il y sera. Et petit échec, mais enfin, pour la Belgique, avec Une Sœur qui était nommée pour le meilleur court-métrage, l'Oscar du meilleur court-métrage. Je sais pas s'il est encore dispo sur Ovio, mais il était disponible sur Ovio, donc sur le site de l'RTBF, pendant quelques jours. Je sais qu'il est sur le site de la VRT aussi, et ça, à mon avis, il est accessible plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à rattraper Une Sœur, très beau court-métrage qui m'a fait penser à ce fameux film danois, norvégien, si je dis pas de bêtises,
oui.
Où on suivait un opérateur téléphonique de la
The
police.
Guilty.
De, voilà, The Guilt.
Hey.
Bien vu.
Pour une fois.
Oui, je me souvenais plus du titre. Et vu que je comptais pas spécialement en parler, j'avais pas regardé. Excellent film, effectivement.
Un thriller centré uniquement sur un opérateur de contrôle à la police.
Bah, qui répond aux urgences.
Il répond au téléphone.
Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est une relation entre une opératrice, mais sauf qu'on a aussi le point de vue de la personne dans le véhicule qui peut pas dire que c'est une urgence, en fait. Tu vois, oui, en fait, le conducteur pense qu'elle téléphone à sa sœur. Alors que non, elle téléphone à la police. Bref, très très beau court-métrage. Essayez de le rattraper si vous pouvez. Ça vaut la peine. Voilà, petite parenthèse fermée.
Oui, on passe rapidement au long-métrage. Forcément, on va parler du montage son et montage. C'est Le Mans, donc Ford versus Ferrari qui a gagné ces Oscars-là. C'était un peu les Oscars que le film pouvait gagner. Hein. Je veux dire, meilleur montage, meilleur son, ça me paraît tout à fait logique pour un film pareil.
Exactement, t'as raison. C'était ceux pour lesquels il avait le plus de chance. Et au vu du travail, c'était mérité.
Clairement, voilà. on va monter un petit peu après. Il y a costume, maquillage, etc. Bon, voilà. On peut en parler, mais bon.
Mais je pense que tu, puisqu'on est déjà plus haut, on va pas dire musique.
Ah ouais ? Non, ok, on a peut-être pas la même source. Ah, hein. Pour moi, c'est plus haut. D'accord. On va faire dans mon sens parce que moi, j'ai vraiment le sens officiel.
Je suis ton sens.
Donc, meilleur scénario. C'est Taika Waititi pour Jojo Rabbit.
Ouais.
On en parlait récemment. Adaptation dans ce cas-ci, hein, puisque c'est tiré d'un roman avec un speech un peu à son image. Hein, on a l'impression qu'il sortait du lit.
Oui.
C'est ça. Ensuite, meilleur scénario original, ça c'est Bong Joon-ho et Han Jin-won pour Parasite.
C'est le premier Oscar de la soirée qu'il a gagné.
Oui, donc ils se sont dit, ah, bon, ça commence bien, meilleur scénario, bon, bah, c'est sympa, on va prendre l'Oscar, forcément. meilleure chanson originale, ça c'est Elton John pour I'm Gonna Love Me Again.
Sympa.
Pas une grande surprise. Meilleure musique originale, Joker, donc Ildo, Gunnadottir. Ça c'est intéressant parce que c'est sa première vraiment bande-son complète, à elle toute seule, je pense. Hein. Elle travaillait beaucoup avant avec.
Oui, avec Johan Johansson.
Oui.
Alors, c'est pas la première.
Non.
C'est pas sa première bande originale seule. Mais vu qu'elle est en début de carrière, effectivement,
oui,
seule, elle n'en a pas encore fait beaucoup jusqu'à présent. Mais elle n'est pas juste compositrice de musique de film, elle fait aussi d'autres choses. Elle a des disques et c'est une violoncelliste de base.
Tout à fait. Chez Deutsche Grammophon.
Chez Deutsche Grammophon. Effectivement. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait au-delà des musiques de film parce que ça vaut la peine.
On continue avec le meilleur film international. Donc auparavant, c'était meilleur film en langue étrangère. Ils ont changé.
Ouais.
Parasite.
Oui, parce que ça bloquait en fait tous les pays anglophones dans le reste du monde.
Exactement. Un film britannique, par exemple, aurait pu être un film international, mais qui n'est pas américain. Mais
alors, bon, les Britanniques sont souvent dans les meilleurs films.
Mais les Irlandais, par exemple.
Mais un pays africain, peu importe,
peut faire un film en anglais.
Ou même l'Inde. Ne pouvaient pas être dedans, du coup. Donc voilà, ils ont changé ça. Et je dois faire un mea culpa, parce que vous savez de toute façon déjà qui a gagné l'Oscar du meilleur film, mais je pensais qu'il n'était pas permis de faire le doublé meilleur film étranger et meilleur film.
Oui, moi aussi je pensais.
Et oui, je pensais même que c'était une règle en fait, que c'était interdit. Et parce que Roman ne l'avait pas fait l'an dernier. Mais en fait, non, l'an dernier, c'est juste que les Américains ont été cons. même si j'aime beaucoup Green Book. Mais voilà, les votants ont fait n'importe quoi l'an dernier. Et donc c'est possible.
C'est peut-être nouveau cette règle.
Cela dit, je pensais sans doute aussi que c'était pas possible parce que c'est ridicule, ce doublé, je trouve.
On en parlera. Donc meilleur film international, Parasite. Meilleur film d'animation, Toy Story 4.
Ridicule, pas pour le film. Je suis très content pour le film, mais le principe, tu vois.
C'est très bizarre.
Voilà.
Meilleur film international, meilleur film d'animation, Toy Story 4. On vient d'en parler. Et non pas les autres, hein, parce qu'il y avait quand même Klaus, il y avait How to Train Your Dragon.
Je pense qu'il y avait des choses un peu plus intéressantes que Toy Story 4. Récompensé, mais bon, soit.
Que voulez-vous ? Il faut bien faire plaisir à Bob Iger. meilleur acteur dans son second rôle, Brad Pitt. Ah, c'est pas étonnant, il a gagné quasiment tout sur son passage jusqu'aux Oscars, donc voilà.
Premier Oscar
de
la carrière de Brad Pitt. Aussi incroyable que ça puisse paraître.
Oui.
Voilà.
Comme quoi.
Il était temps. Et je pense qu'il y a un acteur qui a prouvé moult fois qu'il en méritait.
Donc, en tant qu'acteur et en tant que producteur.
Bien sûr, parce qu'avec Plan B, il produit énormément de choses, dont des films un peu plus, enfin des premiers films, et voilà, des choses moins évidentes, et pas du tout juste grand spectacle.
Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Laura Dern pour Marriage Story, pas étonnant non plus.
Le seul Oscar remporté par Netflix quand même. Hein.
C'est vrai. Et absent ouais. total des grosses récompenses cette année, oui non. Il
ils
était là dans le...
Netflix cette année.
Bah, les Golden Globes étaient plus sympas
bon,
avec Netflix.
Mais bon, c'était très mérité pour Laura Dern, hein,
oui, clairement. Meilleur acteur dans un rôle principal, on a Joaquin Phoenix pour Joker. Pas du tout étonnant.
Non, on va pas revenir là-dessus. Je pense qu'il s'était amplement mérité, même si voilà. J'espère,
si on a profité pour faire
Adam
un peu
Driver, voilà.
un best-of de ses discours altermondialistes. Hein. Oui. Renée Zellweger pour Judy. C'était pas étonnant non plus, on en avait parlé. Meilleur réalisateur et meilleur film, parce qu'on peut le dire, Bong Joon-ho pour le meilleur réalisateur et Parasite pour le meilleur film. Et là, c'est un peu le what the fuck de la soirée.
Ouais, parce que j'ai dit, sans doute, enfin je l'ai sûrement dit dans le podcast, je l'ai dit sur Twitter aussi, pour moi c'était quasiment assuré pour Sam Mendes, sans doute les deux. Parce que pour une bonne et simple raison, c'est que la plupart des gens qui votent à toutes ces cérémonies, les Spirit Independent Awards, enfin tous ces bazars-là, c'est les mêmes en fait. C'est pas des gens différents dans chaque association. C'est globalement les producteurs, enfin donc ouais. Guild of America, ben en fait c'est les mêmes dans la guild et puis du coup dans les votants des Oscars. Sauf que bon, Oscar c'est un peu plus large, mais t'es obligé de faire partie d'une guild pour voter aussi. Donc,
oui, mais...
donc forcément, à partir du moment où tous les votants, ou presque, j'exagère, hein, mais la majorité des votants sont similaires dans chaque guild et donc chaque cérémonie, il était en tout cas logique ou prévisible que ce soit quasiment les mêmes personnes qui gagnent lors de ces différentes cérémonies. Et Renée Zellweger a gagné partout. Joaquin Phoenix a gagné partout, Brad Pitt a gagné partout, Laura Dern a gagné partout, Sam Mendes a gagné partout, sauf aux Oscars. Donc, prédire que Sam Mendes et ou 1917 allaient gagner ces Oscars-là n'était pas du tout anormal. Ça aurait été une suite juste logique. Mais voilà, finalement, c'est le grand perdant de cette cérémonie des Oscars, c'est 1917. Après, bon, je pense qu'il a quand même fait une belle moisson de prix, donc c'est pas très grave pour lui. Mais voilà, du coup, je me suis planté dans ce prono-là. Je pensais que, suivant cette logique, il remporterait les Oscars aussi. Mais non. Et d'un côté, tant mieux, parce que je trouve ça très cool que Bong Joon-ho et Parasite gagnent ces deux Oscars incroyables.
C'était le premier surpris hein, de la soirée, ça c'est sûr. Il disait, moi, je croyais que je pouvais aller boire tranquille. Ben non. Par contre, la seule chose, c'est que ça montre la volonté, je pense, des Oscars d'essayer de devenir une cérémonie, ça l'est déjà, mais devenir vraiment la cérémonie internationale du cinéma
ouais, et
dans
plus
son
juste,
ensemble.
Et plus juste la cérémonie du cinéma américain.
Exactement.
Même si y a quand même des tendances hein, qui se dessinent depuis 10 ans.
Bah oui, les réalisateurs,
regardes,
entre autres. Ouais.
Ah, bah, les réalisateurs, depuis 10 ans, je pense qu'il y a eu 3 Américains.
Ouais, c'est
il y
ça.
A eu 5 fois des Mexicains. Il y a eu Michel Hazanavicius aussi avec The Artist. Là maintenant Bong Joon-ho franchement je pense que sur les 10 dernières années je suis même pas sûr qu'il y ait eu 3 Américains
je pense pas.
Il y a eu Damien Chazelle dans les 6-7 dernières années et voilà enfin bref oui effectivement je pense que la question que tu poses sur l'internationalisation des Oscars est intéressante et clairement je pense que ça se profile vers le fait que les Oscars vont devenir là référence, enfin la cérémonie mondiale et plus juste américaine à 100% du cinéma, et ce serait une bonne chose, je pense, s'il y a cette dynamique-là qui s'installe.
Et on termine sur une petite note, notre ami Thierry Frémaux, qui doit être content, parce que c'est la troisième fois dans l'histoire du Festival de Cannes
ouais.
que l'Oscar du meilleur film est également une ancienne Palme d'Or.
Ouais, avec un film de Billy Wilder, je pense, si je dis pas
ça.
De bêtises.
Il y en a encore un autre,
ouais. Et un autre, ouais. Oui,
c'est
un fait plutôt
ça
rare.
Ça veut dire qu'ils ont du flair.
Ouais. Bah oui.
Ça confirme le bon flair du Festival de Cannes, malgré ce qu'on peut en penser et ce qui est dit dans la presse parfois sur ce festival.
Ouais. Et je vais conclure sur le fait que la nouvelle star, entre guillemets, j'exagère un peu, hein, En tout cas, la nouvelle coqueluche du moment, c'est la traductrice de Bong Joon-ho, parce qu'elle l'a accompagnée sur toute sa tournée de prix, etc., américaine. Donc, ça fait quand même un moment qu'elle est avec. Et je sais pas pourquoi tout le monde s'intéresse à elle maintenant, parce que c'est bien, c'est sympa. C'est aussi une réalisatrice, et voilà, elle a dit qu'elle voulait faire un film sur le monde des cérémonies de prix. Et je pense que j'ai vu un tweet du distributeur de Bong Joon-ho qui a dit je pense qu'il y a un distributeur qui est intéressé. Donc voilà,
ouais, non, mais je pense
c'est une petite histoire sympathique.
Ce qui était touchant, c'est que tu la voyais tout aussi émue que lui.
Bah, bien sûr.
Parce qu'ils ont tellement dû faire la route ensemble, etc. Et vivre cette campagne ensemble, finalement. Ah oui, que
c'est intense. Hein.
C'est, pour elle aussi, c'est une victoire d'être là. Quoi. Donc c'était assez intéressant à voir. Les deux pleuraient sur scène. T'es là, bon, c'est marrant parce que c'est juste sa traductrice à la base.
Ouais.
Elle est en train de pleurer. Et c'est vrai que c'était assez touchant de voir le bonheur dans les visages des membres du casting et de l'équipe du film qui, alors là, mais s'attendaient pas du tout à représenter leur pays comme ça sur la scène des Oscars à ce niveau-là. Donc voilà, ça tourne notre page des Oscars.
Ultime conclusion sur Parasite,
oui,
il ressort dans les salles en Belgique.
Bah oui,
voilà.
Ce serait con de s'en
priver. Je sais pas ce qu'il en est en France. Enfin, il ressort en salle. Il a jamais quitté les salles.
Non.
Comme j'avais dit, j'avais été le revoir en décembre. Et je sais qu'il était toujours à l'affiche, donc il ressort plus globalement.
Et si je ne me trompe pas, il y a même une version noir et blanc qui va sortir...
En France, oui, on en avait parlé dans le podcast la semaine dernière, ou il y a deux semaines.
Enfin, on le précise. Prochain film, il est temps. Deuxième film de la semaine, film américain pour le coup, on revient sur le bon vieux pays, l'Oncle Sam, avec un film, on peut le dire, captivant, une histoire vraie, de Clint Eastwood. En tout cas, emparé par Clint Eastwood, il a dit « Oh, j'ai vu ça !» Il le prend. On remonte un peu aux JO d'Atlanta, hein, les Jeux Olympiques d'Atlanta.
En 96, ouais.
Où il est question...
96.
D'une explosion, d'une bombe qui explose.
Dans le parc olympique.
Dans le parc olympique. Jusque-là, rien d'anormal aux États-Unis, j'ai envie de dire, presque. mais il y a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Richard Jewell qui était là, avant l'explosion, juste avant l'explosion, qui a constaté le colis suspect, qu'il a déclaré et qui a dit à tout le monde de partir. Enfin, c'est un peu le héros de la journée qui a sauvé des centaines de personnes, sans doute, puisqu'il a permis d'évacuer et de limiter les dégâts. Il y a eu des dégâts, mais ce n'était pas des dégâts aussi importants que si tout le monde était resté là. Hein,
oui, alors je ne me souviens plus des chiffres, mais je pense qu'il y a eu deux, max trois morts. Et bon, il y a eu des blessés, mais voilà, je pense que tout le monde s'en est sorti, s'en est tiré, ou presque. Donc effectivement, s'il n'avait pas réagi, le bilan aurait été beaucoup plus lourd.
Problème, on connaît l'Amérique et la justice américaine et surtout les FBI investigation,
ouais,
qui doivent vite trouver un coupable, hein, parce que bon, c'est les JO, il faut pas que dans la presse et dans le monde entier on dise c'est quoi cette histoire, ça explose. Donc ils doivent trouver un peu le coupable, je le disais.
Ouais. Et ils suspectent cette histoire de pompier pyromane.
Ben oui, celui qui a crié l'alerte, hein, qui a crié au loup.
Eh ouais.
Est-ce que c'est pas lui qui invente des conneries ou que c'est lui qui a justement planté la bombe pour devenir le héros de la journée?
Ouais.
C'est là tout le principe du film et justement cette espèce de contre-enquête qui va être menée par l'avocat, notamment pour savoir comment est-ce qu'on va défendre le client et comment est-ce qu'on va défendre cet homme, Richard Jewell, qui est incarné ici par un acteur qui n'est pas un acteur. Je pense que c'est de nouveau une lubie de Clint Eastwood d'aller prendre quelqu'un qui n'a pas ou très très peu joué dans son rôle principal, dans ce cas-ci, et de l'entourer d'un casting 5 étoiles, hein, puisque son avocat n'est autre que Sam Rockwell. Sam Rockwell qui ne cesse d'enchaîner les bonnes performances. Tu vérifies, je pense, si je me trompe sur mon statement.
Oui, tu t'es trompé.
Je me trompe.
Ouais,
je suis sûr que
j'avais déjà vu dans quelques trucs.
Mais écoute pas. Non, ce n'est pas un inconnu.
Non, après, tu regardes Salfimo, c'est quand même beaucoup des courts-métrages.
Voilà.
Un peu de télé, quelques longs, mais je pense qu'à part Aitonia, effectivement, je me souvenais de lui dans Aitonia.
D'accord.
Il était dans Black Landsman. Voilà, il commence à faire des trucs qu'on commence à avoir vus, mais relativement.
Gros
mea
culpa, alors, de ma part, pour cet acteur, puisque ce n'est pas sa première fois. C'est Paul Walter Hauser, comme ça, voilà. Je me suis rattrapé, j'ai dit son nom. Mais il n'y a pas que lui, comme je disais, Sam Rockwell au casting. Et voilà un peu le principe du film. Je suppose qu'il est question, du coup, comme je disais, d'enquête, de contre-enquête, de diffamation. Est-ce que Clint Eastwood parvient toujours à nous capter avec sa mise en scène et surtout son sens du... J'ai pas envie de dire du suspense, mais c'est un peu le cas dans ce film-ci. En tout cas, c'est ce qui est proposé.
Oui, parce que... En fait, pour tout le monde comprenne bien exactement ce qui se passe, c'est que ce fameux Richard Jewell, en fait, avant d'avoir ce poste-là d'agent de sécurité du parc olympique durant les JO, il a eu plusieurs postes avant dans un cabinet d'avocats où il n'était pas du tout dans la sécurité à ce moment-là, mais il avait l'envie de se lancer là-dedans. Et puis il était agent de sécurité d'un campus universitaire, d'autres trucs, et à chaque fois il s'est fait virer parce que il est un peu il va un peu dans l'excès, voilà. Il prend son job très très au sérieux et parfois un peu trop au pied de la lettre. Et donc quand il vire des étudiants un peu n'importe comment sur le campus, ça passe pas, voilà. Donc il fait un peu trop d'excès de zèle. Et donc en fait c'est le mec qui a toujours voulu bosser dans les forces de l'ordre, enfin la police, etc. Il n'y a jamais réussi en fait, il n'est jamais arrivé. C'est pour ça qu'il a fini plutôt agent de sécurité plutôt que flic en fait.
D'accord.
Donc c'est pour ça entre autres qu'il devient rapidement un suspect du FBI. C'est que c'est un gars qui a toujours voulu avoir l'attention sur lui, qui a cherché à atteindre certains objectifs liés aux forces de l'ordre. Et donc forcément, ils se disent, le mec, il veut bosser dans les forces de l'ordre, il n'y arrive pas, et donc il va essayer de devenir un héros. Et peut-être que c'est lui qui a créé, qui a tout manigancé, qui a fomenté cet attentat. Mmh. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est quand même une bombe dans un parc olympique, on appelle ça un attentat.
Moi si je me trompe, je pense que nous en tant que spectateurs, assez tôt dans le film, on comprend quelle est la perspective, on comprend la perspective du personnage principal, est-ce qu'il est coupable ou pas.
Oui.
On nous le donne quoi.
Oui, assez rapidement, parce qu'il y a un calcul que son avocat fait assez tôt. Alors son avocat, c'est celui pour lequel il avait bossé justement, avant de se lancer dans la sécurité. C'est le seul avocat qu'il connaît, il a fait son numéro, voilà. Parce que rapidement, il commence à avoir des gros ennuis. C'est le suspect numéro 1.
Il comprend qu'il est suspect, quoi.
Voilà. Et un des éléments importants, c'est que celui qui a placé la bombe a appelé d'une cabine téléphonique à un moment pour dire voilà, enfin, il y a un truc qui va exploser, machin, je sais pas quoi. Et il y a un calcul tout con qu'il fallait faire, c'est calculer la distance. Enfin, la durée que tu mets pour parcourir la distance entre la cabine et
l'endroit de la bombe.
Et l'endroit même, parce que voir est-ce que c'était faisable de faire l'aller-retour, placer la bombe, dire le truc, retourner sur place pour sauver tout le monde, justement. Mm-hmm. Et non, en fait, c'est impossible de faire ce trajet-là dans les temps impartis. Et donc, son avocat comprend très vite que c'est juste pas possible. Et donc, c'est comme ça qu'il est convaincu de l'innocence de Richard Jewell. Malheureusement, tout le monde ne fera pas le calcul aussi vite. Et donc, du côté de la presse, parce qu'il y a un gros enjeu à ce niveau-là, et du FBI.
Il faut trouver un coupable, comme je disais.
Voilà, c'est ça. Ils vont voir la jouer, ils veulent la jouer autrement. Et donc, en fait, Richard Jewell est devenu un suspect.
Il est passé de héros à.
Oui, c'est ça, il est passé de héros à suspect
ouais, c'est ça.
Très vite, parce qu'une journaliste a balancé le fait que le FBI pensait peut-être à lui comme suspect, alors que l'enquête n'était pas très avancée encore à ce moment-là. Enfin, c'était un petit peu avancé, mais
on connaît bien l'engouement de la presse qu'on connaît déjà aujourd'hui aussi, d'ailleurs.
Bien sûr,
c'est pas nouveau.
C'est pour ça que, comme souvent, voilà, le film reste d'actualité, reste moderne, parce qu'il aborde toutes ces problématiques-là. Donc déjà, même s'il n'y a pas encore les réseaux sociaux, c'est les mêmes thématiques, hein. C'est-à-dire que c'est le gars qu'on accuse très vite alors qu'on n'a aucune info, on n'a aucune preuve.
La fake news,
c'est,
quoi.
C'est ça, c'est la fake news, c'est le rôle joué par la presse, par les forces de l'ordre aussi, les enquêtes.
On juge quelqu'un avant même de savoir s'il est coupable, par exemple.
Ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'en 2020, un film pareil reste encore très pertinent.
Même encore plus pertinent que
bien sûr.
Donc c'est tout à fait, c'est un film très ambitieux du coup, je veux dire d'un point de vue narratif, est-ce que Clint Eastwood parvient à garder sa maestria et à bien traiter le sujet, ou est-ce qu'il le fait un peu de manière,
Mais c'est très, alors c'est du Clint Eastwood pur jus, parce que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, c'est ça qui l'intéresse, Clint Eastwood c'est les héros américains, c'est raconter l'Amérique telle qu'il la voit, souvent d'un républicain, voilà. Chose que Clint Eastwood est, donc c'est normal qu'il voit que son cinéma représente sa personnalité.
Ouais, mais il montre toujours l'Amérique avec des cicatrices. Hein. Il montre rarement l'Amérique, mais... l'Amérique un peu fake.
Non, voilà, bien sûr. C'est l'Amérique profonde, souvent. Donc, et le personnage de Richard Jewell en a un exemple parfait. Donc, on retrouve Clint Eastwood dans les thématiques, on retrouve Clint Eastwood dans la mise en scène, parce que... j'ai pas vérifié, mais je doute que ce ne soit pas Tom Stern qui soit à la photo du film. Enfin, tout dans le flic. Ah ben non, voilà, évidemment, c'est pas lui.
Décidément, aujourd'hui,
non, c'est vrai. Non, mais j'avais oublié. C'est vrai que depuis quelques années, il travaille aussi avec un autre chef opérateur qui s'appelle Yves Bélanger. Mais globalement, c'est assez frappant, parce que je trouve que son travail ressemble très fort à ce que Tom Stern faisait avant dans les films de Clint Eastwood. Un truc un peu léché, un peu légèrement grisâtre, mais pas trop, avec quand même des gros apports de sources de lumière qui rend parfois les trucs un peu très clairs. Donc, c'est la patte Eastwood, vraiment. Je sais pas comment dire ça autrement. Mais globalement, il retrouve ses collaborateurs habituels ou presque. Donc voilà, vraiment, tu vois le film, tu sais dire que c'est un film d'Eastwood. Franchement, si t'as vu...
Un classique Eastwood, quoi.
Si t'as vu assez de ses films, et surtout de ses films récents, tu sais dire que c'est Clint Eastwood. Franchement, vraiment, c'est un des... J'ai envie de dire un des rares, mais c'est un des gars dont on reconnaît la patte immédiatement, quoi.
Okay.
Que ce soit au niveau des thématiques, du visuel, enfin bref. Un film d'Eastwood, c'est un film d'Eastwood. Que... Non, 99% de Yes Men, non, c'est pas dire. Quoi.
Est-ce que Richard Jewell est un bon film d'Eastwood ?
C'était un bon film d'Eastwood. Je vais pas dire ce qu'il en est advenu de la fin de l'histoire.
Bah, hein.
Si ça vous intéresse, vous irez voir le film.
Wikipédia.
Wikipédia, effectivement. mais bien sûr, mais c'est le genre de film après lequel tu vas voir la page Wikipédia parce que tu dis « Ah ouais, putain, il y a eu ça.
Ouais. »
Bon, était-il coupable, était-il innocent ? Je pense que tout le monde a facilement la réponse avant de voir le film. Voilà, c'est le genre de truc où t'as envie de t'intéresser encore plus aux événements, à cette époque, etc. Donc rien que pour ça, c'est réussi. Mais de toute façon, c'est un bon film devant lequel tu prends du plaisir, devant lequel t'es intéressé, parce que voilà, l'histoire en elle-même est intéressante. Et... à nouveau, c'est pas l'issue qui est le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'est déroulé. Qu'il est donc. Clint fait le boulot, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Il fait son boulot et donc tu lui donnes combien d'étoiles à Clint ?
Un bon 2 étoiles. Je trouve qu'il se rapproche de ce qu'il avait fait l'an dernier avec la mule, plutôt que de ce qu'il avait fait il y a 2 ans.
Tout à fait.
Avec le train.
Avec le train.
Et c'était dégueulasse. Donc moi, j'aime bien du Clint comme ça.
Avant.
Voilà. Et oui. gros casting de producteurs. Hein. Oui. Parce qu'il y a Jonah Hill, il y a Eastwood, il y a DiCaprio, enfin voilà, il y a David Bernstein aussi, donc, bref.
Il était chercher du beau monde pour produire son film.
Qui est du lourd.
Clairement. On passe au In Memoriam, j'ai envie de dire, de cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'on va parler un peu de Kirk Douglas, le père de Michael, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette légende du cinéma qu'on a
si
vu notamment dans le film.
Si vous ne connaissez pas Kirk Douglas, c'est dramatique.
Ah bah tu sais, si vous êtes jeune, hein, si vous avez 16 ans, éventuellement, c'est peut-être pas l'acteur qui vous vient à l'esprit comme ça.
Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il a fait son dernier film en 2004.
Voilà, et puis il n'est pas tout jeune, hein. Donc, enfin, il n'était pas tout jeune, très clairement, mais c'est un acteur qui a, comme je le disais, marqué le cinéma, notamment pour le film Spartacus, qui est sorti en 1960, hein, qui a été un de ses tout grands films, en tout cas.
Mais je pense que c'est le rôle pour lequel il est le plus connu.
Oui, je pense aussi.
Vraiment le plus grand... Enfin, je ne sais pas si c'est le plus grand de ses rôles, mais c'est vraiment celui pour lequel il est le plus connu. Ça, il n'y a pas de doute.
Et quand on regarde sa filmographie, qui est juste incroyable, si vous allez sur un site ou n'importe quel site avec sa filmographie, que ce soit IMDb ou même à Wikipédia, vous avez 2 colonnes tellement il faut remplir chaque décennie, parce qu'il a bossé, hein, très clairement. Je sais qu'à l'époque, on tournait les films un peu plus vite qu'aujourd'hui, mais ça ne veut rien dire. Quels sont les films les plus notables, selon toi, de Kirk Douglas, les immanquables de sa carrière, ceux qu'il faut absolument rattraper ?
Mais, alors, donc, pour rappel, il est donc né en 1916, début du siècle dernier. Et donc les années 40, c'est vraiment le tout début de sa carrière, mais c'est pas encore la décennie dans laquelle il y a ses films les plus marquants.
Il va monter, ouais.
Par contre, les années 50, là, c'est vraiment sa décennie, quoi. C'est pas encore celle de Spartacus, on y arrivera par après, ça c'était en début des années 60. Enfin, techniquement, c'est encore c'est la dernière année des années 50, en tout cas de cette décennie-là.
Mm-hmm.
Mais globalement, je pense qu'on peut cibler quelques films des années 50. Les Ensorcelés, je pense, de Vincente Minnelli.
Oui.
Je pense à 20 000 lieues sous les mers de Richard Fleischer, évidemment.
Sans blague.
Ulysse dans une moindre mesure. Encore retour avec Vincente Minnelli, évidemment, La vie passionnée de Vincent Van Gogh.
Tout à fait.
Grand film. Et aussi un de ses plus connus. Et deux de ses plus grands films aussi, je pense, fin de la décennie, avec Les Sentiers de la Gloire. Et
de Stanley Kubrick.
De Stanley Kubrick, qu'on ne présente plus.
Non.
Et Les Vikings, et encore de Richard Fleischer. Richard Fleischer, c'est vraiment un réalisateur avec qui il a collaboré énormément. Avec Minnelli aussi. Et puis d'autres, mais voilà, les années 50, je pense que ce sont globalement les 5-6 films qui représentent, en tout cas c'est plus 5-6 des films qui représentent le mieux sa carrière,
oui.
C'est ceux-là.
Et sa montée dans le star system, ça c'est sûr.
Bah c'est clairement ça, c'est le grand acteur des années 50, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot.
Mais c'est dingue quand tu vois ça, quand tu vois les dates de sortie des films, parfois les acteurs faisaient 4 films par an, quoi.
Ouais. Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est plus imaginable, ça. On peut en faire deux, mais
ça peut arriver pour des questions d'agenda que plusieurs de tes films sortent la même année. C'est comme ça que tu te retrouves avec 4 films.
Adam Driver cette année, hein.
Ouais, mal. C'est ça. Ouais, t'as souvent ça. Omar Sy, il a eu ça quelques années. François Civil cette année a eu plusieurs trucs aussi. On l'a vu au moins dans 3 films. Donc voilà, t'as des années comme ça. C'est des questions de timing, ça arrive. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, plusieurs décennies, c'était systématique, quoi. 3-4 films par an. Et pareil pour certains réalisateurs. Hein. Il y en a encore de nos jours qui le font. Je pense notamment à Sion Sono, réalisateur japonais, qui tourne 3-4 films par an. Un peu moins ces toutes dernières années. Mais voilà, c'est quelque chose qui se faisait, qui était très courant à l'époque et qui a un peu disparu, c'est vrai. Maintenant, souvent, un réalisateur te dit qu'il faut 5 ans pour faire un film.
Sont-ils devenus paresseux?
C'est Clint Eastwood qui en fait toujours un par an, oui. Ça, c'est sûr.
Et Woody Allen.
Oui, bon. Spielberg aussi, en général, un film par an. Exceptionnellement, il n'y a pas eu de film en 2019, mais il y en avait eu deux en 2018. Donc bref, voilà. Parfois, il te fait deux films par an. Il y avait eu Jurassic Park et La Liste de Schindler la même année.
Et
aussi.
Pentagon Paper, hein, avec Ray Perwen.
Voilà, c'est ça.
Donc, rien que ça. Est-ce qu'il y a d'autres films que tu veux mettre en avant de notre ami Kirk?
Les années 60 ont démarré, ou les années 50 se sont terminées avec Spartacus quand même. Donc,
de nouveau Stanley Kubrick, forcément.
Oui, c'est quand même pas rien.
Non, ça c'est sûr, c'est le film de sa carrière, en tout cas celui pour lequel il est plus connu, on en parlait.
Seuls sont les Indomptés de David Miller aussi, qui est quand même un de ses grands coups. Et puis alors, on en parle un peu moins, mais pour moi c'est un de mes films préférés absolus de tous les temps.
Vas-y.
C'est Paris brûle-t-il, de René Clément.
Ok.
Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce film, si tu l'as vu, mais je vais te dire le casting. C'est hallucinant. T'es prêt?
Vas-y, je t'écoute.
Jean-Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie Caron quand même, Jean-Pierre Cassel, Bruno Kremer, Alain Delon, Kirk Douglas, Pierre Dux, Glenn Ford, Yves Montand, Anthony Perkins, Michel Piccoli, Claude Rich, Simone Signoret, Jean-Louis Trintignant, Pierre Vanek, bref, Orson Welles.
Je l'ai vu ce film.
Je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer tellement c'est impressionnant.
Je l'ai vu.
Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu parce que c'est un des films
c'est
que
la
je
libération
regarde assez
de Paris,
peu.
C'est ça.
Bien sûr.
Oui, OK, j'ai vu.
Et j'ai vu. J'adore ce film. C'est magnifique. Et puis putain, ce casting, quoi. C'est hallucinant. Ouais. Franchement, c'est pour la blague, mais c'est le Avengers de l'époque, quoi.
Oui, oui, sauf que bon, forcément.
Niveau casting, hein.
Sauf que le film a plus de gueule qu'Avengers.
Je laisse chacun libre juge. Mais il y a eu Les Frères Siciliens aussi, quand même, fin des années 60, de Martin Ritt,
tout à fait.
Qui est un de ses jolis succès. Puis dans les années 70, il a tourné avec Mankiewicz dans Le Reptile, Fury de Brian De Palma. Quelques trucs. Et puis, mais clairement, tu vois qu'à partir des années 70, 80,
oui, sa carrière a pris un tournant, c'est clair.
90 et 2000, il faisait beaucoup, beaucoup moins de films, ce qui est normal. Un homme à respecter, très chouette film des années 70, aussi que j'ai oublié de citer. Enfin bref, il a tourné avec George Miller dans les années 80.
Exact.
Bref, je m'arrête là.
Et John Landis.
Et John Landis. Non, mais tu fais bien de le dire aussi, ça.
Oui, non, clairement.
Mais bon, on ne va pas citer tous ces films. Mais non. Voilà, Kirk Douglas. J'ai mis que c'était un grand qui nous avait quittés. Mais ce n'est pas un grand, c'est une légende, c'est une icône, Kirk Douglas, qui a marqué des générations et des générations de cinéphiles, je pense. Et voilà, il nous a quittés à 103 ans.
Qui a transmis.
Son épouse, qui est belge d'origine, à 101 ans. Ou en tout cas, elle va arriver à ses 101 ans là dans quelques semaines, décidément, quelques mois. Je pense qu'il a eu une belle et longue vie. Il a fait de beaux enfants, dont Michael Douglas, qui est aussi un acteur absolument fabuleux.
Oui.
Donc voilà, je pense que Kirk Douglas a eu une très belle vie. Il nous a donné de très très beaux films.
Peut
voilà.
Reposer en paix, comme on dit.
Merci Kirk.
Merci Kirk, tout à fait.
C'est bien de faire un petit in memoriam aussi de temps en temps, ça change. Hein.
Bah oui, parce que c'est l'occasion aussi de faire de la filmo, mais bien sûr.
On pouvait pas ne pas parler de Kirk Douglas.
Ça l'est difficile.
Franchement, c'est un des gars, tu pourrais penser qu'il était mort depuis longtemps. Bah, c'est normal, il ne fait plus rien depuis longtemps,
ouais, c'est ça.
103 ans. Et puis, en fait, non, en fait, j'ai l'impression que c'est une des dernières, alors c'est pas le seul, hein, il en reste mais très 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 peu, des grandes grandes légendes d'Hollywood qui étaient encore en vie, en fait.
Mm-hmm.
Là, maintenant, alors je connais pas toutes les décennies d'Hollywood par cœur non plus, et j'ai des lacunes. Mais voilà, je pense que c'était la dernière grande légende, en tout cas, que tout le monde connaît et dont tout le monde se souvient, qui était encore en vie et qui, globalement, a connu tous les grands moments d'Hollywood, quoi. Donc, voilà.
Rest in peace, Kirk Douglas. Oui. Merci l'artiste. on passe au dernier film de la semaine, un film belge, un film Cinévox. On est bien à le dire parce que c'est des films qu'on a fait, on voit dans les séquences Cinévox. Fille de joie, de Frédéric Fontaine et parce qu'il n'est pas seul avec sa femme qui s'appelle Anne Polisevich. Un casting de trois femmes, dont oui. Sarah Forestier, dont Noémie Lovski et dont Annabelle Langren. Trois femmes qui, comme on l'a expliqué en début d'émission, traversent la frontière française. Donc elles vivent en Belgique. Oui.
C'est l'inverse. Elles vivent en France et oui, viennent travailler en Belgique.
Dans des cités, hein, elles vivent et puis hop, elles viennent travailler comme des femmes dans une maison close, on peut le dire.
Bah oui, bien sûr.
Tout à fait. Et donc le film va plonger dans leur quotidien et dans justement tous les problèmes qui peuvent en découler, puisque forcément, quand on choisit de faire une vie comme ça, une vie cachée, on a parfois des cadavres dans le placard.
Oui. Oui, non, c'est une façon de présenter les choses. C'est une façon de présenter les choses, effectivement. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai bien aimé le portrait de ces femmes, qui, évidemment, ont des parcours assez différents, des personnalités assez différentes.
C'est clair.
Sarah Forestier, elle incarne le même type de personnage qu'elle a déjà incarné plusieurs fois.
Elle fait du Sarah Forestier.
Voilà.
La fille au bout.
Ouais, c'est ça, la fille des cités ou la fille de milieu très modeste,
ouais.
Qui est un peu au bout du bout, en tout cas qui mène.
Les cernes, tout le bordel, ouais, c'est ça.
Qui a du mal à mener les deux bouts, je puis dire. Donc voilà, c'est un type de personnage qu'on connaît et qu'elle a l'habitude de faire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que du coup, c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Hein, mm-hmm. Donc on n'est pas du tout dans. Enfin, moi, je préfère Sarah Forestier que Léa Seydoux dans Roubaix, quoi, par exemple. Hein.
Ou même dans James Bond, d'ailleurs. On en reparlera.
Bref. Voilà, donc, moi, j'aimerais bien que Sarah Forestier fasse d'autres choses aussi.
Oui, mais c'est un peu une table casse.
Mais c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Et donc, forcément, c'est quelque chose qu'elle ne fait pas mal. Donc, ça rend... En tout cas, ça donne de la crédibilité à son personnage. Ça donne de la crédibilité au film aussi. Noémie Lvovsky, par contre, c'est un rôle un peu plus... C'est plus surprenant de la voir dans ce genre de film. De la voir jouer ce genre de rôle, mais je la trouve absolument géniale.
C'est vrai que...
Je pense que c'est le personnage que j'ai préféré dans le film. Elle incarne une mère de famille. Mm-hmm. Son mari est incarné par Sergi López, qui a déjà tourné avec Frédéric Fontaine dans le passé. Elle assume complètement son truc, mais dans la famille, par contre, c'est un tabou complet. Je sais pas trop d'ailleurs si on sait, enfin si les enfants le savent, mais je pense que oui. Mais en tout cas, ils abordent pas du tout le sujet.
Oui, forcément, c'est pas un sujet que t'as envie de balancer à table. Hein.
Mais non, mais voilà, d'un côté, elle assume complètement dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, mais du côté de la famille, ça reste quand même compliqué.
Dès qu'on ouvre la porte, c'est fini, quoi.
Ouais. alors que elle ramène beaucoup d'argent dans la famille.
Oui, clairement.
Donc voilà, c'est une situation un peu compliquée. Et enfin, il y a le dernier personnage, celui d'Alabel Langron, qui je trouve est assez intéressant aussi. Elle a un personnage un peu plus complexe aussi, je trouve, moins facile, parce que il est dans une situation compliquée. Avec un client duquel elle est plus proche, où ça se passe pas très bien, et du coup ça va créer des problèmes dans le milieu. Et voilà, j'ai été séduit, je dois le dire, par ces trois personnages. Effectivement, on peut résumer le film de manière un peu grossière en disant que c'est le portrait de trois prostituées. C'est un peu...
De trois femmes complexes et fortes dans leur manière d'être, bien sûr, c'est ce qu'on a écrit dans le sous-titre. Mais c'est vrai que c'est une manière de voir en fait les femmes aujourd'hui, en les mettant face à une problématique pareille et une situation pareille, mais comme tu le disais, en expliquant pour chacune d'entre elles des difficultés différentes. Que ce soit assumer ça vis-à-vis de la famille, que ce soit aussi ne pas aller trop loin dans le délire, entre guillemets, et avoir des problèmes, ce qui est le cas pour l'une d'entre elles. Donc, très clairement, c'est vrai que cette situation-là les met en défaut. Moi, la chose que je reproche le plus au film, c'est en fait... comment dire ? Donc, le film, pour moi, c'est une succession d'événements, mais j'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage, en fait. Je sais pas comment... Il manquait pour moi une dimension plus émotionnelle au film. Je l'ai vu. Déjà, au début, ça commence par un élément un peu de thriller, où tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la pluie, il fait nuit, il se trimballe quelque chose. Voilà, on va pas révéler, parce que ça rejoue un peu plus tard dans le film. Enfin, un peu plus tard à la fin. mais bon, voilà, enfin... Et puis après, voilà, il se passe ça, et puis la maison, et puis le truc. Et je sais pas, il manquait des points d'accroche pour moi et ces personnages-là. C'est aussi parce que c'est pas vraiment mon style de film. C'est peut-être pour ça, dès le départ, que ça joue un peu moins en ma faveur, mais j'ai pas été...
Oui, pas assez d'empathie.
Voilà, pas assez d'empathie. D'accord. Manque d'empathie, je pense.
D'accord.
Par rapport aux personnages.
T'as pensé quoi des personnages quand même au-delà de ça, de leur situation?
Mais je sais pas, moi,
il y a des choses qui t'ont plu
J'avais peur de tomber dans la caricature. Tu sais, bon, c'est parfois un peu facile de faire la fille qui marche sur le trottoir avec un chewing-gum dans la bouche. Je trouve qu'il l'évite, notamment parce que je pense qu'ils ont vraiment bien casté.
Ouais.
Tu disais Sarah Forestier, c'est du typecast. Oui, mais ça fonctionne. Fait le boulot. Elle est assez convaincante. On aime, on n'aime pas Sarah Forestier. C'est un peu le débat parce que parfois on peut croire qu'elle en fait des caisses aussi. Mais ça va tout à fait dans son rôle de fille complètement dépassée par les événements qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc elle le fait très bien. Et pareil pour les deux autres femmes que je connaissais beaucoup moins du coup, qui m'ont toutes les deux épaté. Et notamment, tu l'as précisé, hein, celle qui est Noémie Lvovsky. Qui elle avait pour moi le rôle le plus je sais pas attachant, je sais pas pourquoi j'ai réussi à m'attacher à plus à elle.
Non, clairement, je suis d'accord.
Mais voilà, comment c'est vraiment une question de sentiment pour moi, c'est pas que ça n'apporte pas quelque chose qui moi m'a touché, mais j'ai pas été 100% conquis par le mélange proposé.
T'aurais aimé être plus emporté dans le truc.
Voilà, mais je reconnais tout à fait l'effort de Frédéric Fontaine et de sa femme Anne Polisiewicz. De nous faire un film comme ça avec des personnages. Peut-être que j'aurais aimé être encore plus dans le monde des personnages, plus développé encore, pour pouvoir encore plus apprécier ce qui se passe ou au contraire être révolté avec elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Un peu trop spectateur dans ce cas-ci, assez participatif.
Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit pas principalement centré sur leur métier, c'est-à-dire c'est pas la vie dans la maison close, quoi.
Voilà.
C'est plutôt beaucoup plus tout ce qu'il y a en dehors. Et je trouve que c'est un des points forts du film, en fait, c'est que tu sors de ces clichés justement dont tu parlais, effectivement. Et ça le fait très bien, et c'est important aussi de faire ce travail. C'est pour ça que je pense que le film, alors ça révolutionne rien non plus, tu vois, mais voilà, je trouve que d'un point de vue sociétal, d'un point de vue comment dire, par rapport à au plus vieux métier du monde, hein, je trouve que le point de vue est assez intéressant et il est important parce que voilà, ça apporte quand même une certaine fraîcheur, ça apporte de la dignité aussi, parce que jamais on n'est pas dans le jugement des personnages, ils sont pas complètement à la ramasse non plus. Voilà, il y a des choses qui sont défendues, et voilà, j'aime beaucoup effectivement l'humilité et la dignité que ça donne à ces femmes. Donc rien que pour ça, je trouve le film assez réussi. Alors même si je pense que j'ai été un peu plus pris que toi, je comprends ce que tu dis par rapport au manque d'émotion, au manque d'empathie, au fait que c'est parfois compliqué peut-être de rentrer vraiment dans ce truc. D'un point de vue mise en scène, je trouve ça assez classique, correct. J'ai pas grand chose à dire dessus, je dois dire. Mais
j'ai pas non plus été convaincu par cet élément, justement, peut-être plus de thriller, si je peux utiliser le mot, du début et du fin du film. Je trouvais que c'était pas nécessaire, mais c'est que
je trouve ça bien de l'avoir implanté au début. Après, il disparaît quand même pendant une bonne moitié du film.
Ouais.
Et il revient seulement assez tard.
Ouais.
Bon, après c'est un payoff et ça paye quand même au final.
Bah oui, c'est pour te t'agripper un peu plus au début du film, c'est pour te dire tiens, il va se passer quelque chose. Oui, c'est ça.
Ça va pas juste être un portrait un peu plan-plan, il va se passer quelque chose. Voilà, bon. Ça fonctionne pas.
C'est pour essayer d'ajouter un peu de poivre et de piment à la chronique sociale.
Ouais, je trouve que ça le fait, mais c'est vrai que bon, c'est pas un pur thriller non plus.
C'est pas nécessaire.
C'est pas ça que c'est pas l'objectif du film. Donc,
oui.
Voilà, c'est juste un peu de piment pour la fin, ce petit côté thriller. Ça m'a pas gêné. Voilà. Puis je pense que c'était une des seules conclusions possibles, en fait. Parce
oui,
que
donc, clairement.
Le problème des portraits, c'est que bah, tu pourrais le faire durer éternellement, presque. Oui, si t'as pas de
un jour dans la vie d'eux. Oui,
voilà, c'est ça. Donc ici, il y a quand même un petit élément narrativement important. Qui exact. Permet de conclure le film et qui fait sens aussi d'un point de vue solidarité, enfin voilà, d'un point de vue de plusieurs valeurs. Voilà, je pense que c'est un élément qui fait sens et qui apporte qui est toute son importance. Voilà.
Qu'est-ce que tu lui donnes comme note du coup?
Bah, 2 étoiles quand même. Voilà, c'était bien.
On va te suivre là-dessus, même si j'aurais plutôt dit 1 étoile. Mais
ouais, je
on sais. Fait pas d'une étoile et demie. Mais étant donné que c'est des films que tu as plus expérience, notamment de Frédéric Fontaine, tu peux du coup mieux juger où est-ce qu'il se situe. Donc 2 étoiles, je pense que tu as.
Et je trouve ce serait ça bien pas mal payé. On sort un peu aussi des carcans habituels du. Enfin, des clichés cinéma social, etc. C'est du cinéma, c'est social. Mais c'est autre chose. C'est un drame, en fait.
Clairement.
Et mais c'est pas c'est pas les Dardennes.
Non.
Les gens vont non, mais malheureusement ils ont ce cliché en tête, mais c'est pas ça, c'est autre chose et c'est très bien.
Je oui, trouve non, qu'on c'est est clairement
plus près du cinéma dramatique français que du cliché qu'on a du cinéma dramatique belge.
Oui, c'est voilà. Vrai, c'est vrai. On n'est pas là-dessus, tu as raison, c'est peut-être pour ça que tu as raison que ça mérite 2 étoiles. On n'est pas vraiment dans le truc 100% parce que c'est vrai que quand on peut voir la bande-annonce ou les posters, on se dit ouh là là, je vais voir quoi. Mais au contraire, d'ailleurs, dans les posters, ils essaient de jouer un peu plus sur le côté le peps qu'ont les trois personnages.
Ouais, alors, il y a de l'humour, effectivement. Voilà. Y a un peu, c'est pas hyper joué comme film non plus,
non,
mais
non.
Voilà, il y a un peu de peps. Il y a un truc à ce niveau-là qui est présent dans le film. Et je pense que c'est bien qu'ils en jouent aussi au niveau de la promo. C'est bien de montrer que le film a plusieurs aspects. Et voilà, pourquoi pas jouer sur cette carte-là aussi.
2 étoiles du coup pour Fille de joie. Je propose qu'on termine cet épisode en parcourant les sorties cinéma donc de cette semaine-ci et de la semaine prochaine. Cette semaine au cinéma, on en a parlé, Les Filles du Dr March, c'était 3 étoiles. Alors là, je voulais être sûr. Mathias et Maxime de Xavier Dolan qui sort au cinéma cette semaine, que tu as vu à Cannes et que tu as adoré.
Alors, si vous n'avez jamais vu un film de Xavier Dolan, ça va être sympa. Si vous avez déjà vu pas mal de ses films que vous connaissez, c'est un best-of. C'est tous les gimmicks de réalisation de Xavier Dolan, c'est-à-dire le ralenti, la musique pop, enfin bref, la totale. Niveau des thématiques aussi, hein, amour, sexualité, etc., amitié. C'est Xavier Dolan, voilà, c'est un gros best-of. Alors c'est pas déplaisant, mais c'est assez anecdotique, je trouve, si on connaît bien son cinéma et si on l'aime vraiment.
Mais
beaucoup.
Si vous aimez bien les accents canadiens, c'est pour vous.
Donc si je devais lui donner une note, je donnerais 1 étoile parce que voilà, mais ça m'a pas convaincu. Et puis c'est parce que c'est pas mauvais dans l'absolu, mais connaissant le talent et toute la technique et toute l'émotion que Xavier Dolan peut mettre en œuvre. Bah voilà, c'est un peu décevant quand même.
deux, enfin, ensuite il y a le cas Richard Jewell hein, également ça c'était deux étoiles si je ne me trompe pas,
ouais.
Mais je me trompe toujours.
Non, tu te trompes.
Fille de joie, deux étoiles de Frédéric Fontaine, Un divan à Tunis, ça on l'a pas vu, La fille au bracelet, c'est film de plus. Tribunal et un autre film après indien qu'on ne veut pas mentionner.
C'est prochaine. Tout pour cette semaine. Mais oui. La semaine prochaine, on parlera de Fantasy Island.
Nightmare Island, par les producteurs de Halloween et Get Out.
Oui, par les producteurs, oui. Enfin, oui. Par Blumhouse.
J'ai bien dit producteur, oui, c'est ça.
Par Blumhouse. On parlera aussi du Prince oublié de Michel Hazanavicius.
Ah, le retour de Michel pour et un film oui. Pour enfants.
Oui. Et de Un jour si blanc, A White White Day, un film islandais tout qui était fait. À la semaine de la critique à Cannes. Voilà, donc varié. Malheureusement, j'ai pas le temps ni l'occasion de rattraper oui. Ces gros films que sont Sonic
oui, ou L'Appel de la vouloir. Forêt. Je pense qu'on va pas t'en vouloir pour Sonic.
Merci, c'est gentil.
Et L'Appel de la Forêt, à vrai dire non plus. J'avais pas que c'est qu'ils sortaient ce truc. Donc voilà.
Je pense qu'on va parler des films les plus intéressants.
Oui, bah comme chaque semaine dans Cinécast.
Évidemment.
Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous êtes encore là, bah, abonnez-vous. Je pense que vous êtes dans le bon club. Pour vous abonner à notre podcast sur la plateforme de votre choix ou sur YouTube si vous êtes encore en train de nous regarder. Et n'oubliez pas, on le répète, le concours GC est toujours d'application. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on vous donnera dans les commentaires qui sera le gagnant.
Félicitations au gagnant de la semaine dernière.
Je oui, pense qu'on le mentionnera dans les commentaires de cet épisode-ci puisque je ferai le tirage au sort après le podcast. Mais non. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Des bisous.
Des bisous. Ciao, ciao.